de vie, une émission proposée par le trio JFK sur Principe Actif. Une parole éclectique, locale, thématique, sociétale, environnementale. Lumière à l'échelle locale de l'actualité nationale, internationale.
Principe Actif, vous écoutez Un air de vie, l'émission sur l'environnement et les initiatives locales. Bonsoir Fred.
Salut Jérôme.
Bonsoir Kevin.
Salut Jérôme, salut Fred.
Salut Kevin. Oui, on est trois ce soir.
Bon, quand vous avez fini vos politesses, les gars, vous êtes grands.
Ça faisait longtemps qu'on n'était pas réunis à un trio.
Un trio, exactement. Et
surtout qu'on a longtemps attendu Jérôme samedi.
Ah bon? Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi, Fred?
C'est la transition.
Alors, la transition.
Oui, c'est pas la transition énergétique, mais ce sont les villes en transition. Un concept que nous avons eu l'occasion de découvrir le 1er février dernier sur la placette Oursel, je crois, et nous sommes allés à la rencontre des personnes locales qui travaillaient dans le sens de la transition.
Et donc, avant d'entendre ces reportages, eh bien, l'actualité.
Oui, de quoi vas-tu nous parler cette semaine, Jérôme ?
Eh bien, deux thèmes ont retenu mon attention. Le premier concerne les gaz de schiste, parce que malgré tout, c'est revenu un peu sur le devant de la scène.
Mais je crois qu'il a du mal, il n'est jamais bien loin, le gaz de schiste. Il y a toujours quelqu'un pour mettre ça sur le tapis. Merci Arnaud.
Et là, donc, on aborde le gaz de schiste du point de vue de la santé, donc des effets de la proximité, vivre à proximité d'un puits de gaz de schiste. Et donc, c'est une étude américaine qui a mis en lumière un lien entre les effets sur la santé.
Les effets négatifs.
Parce
qu'il y avait déjà eu un film qui s'appelait Gazland, on voyait des effets très concrets sur la robinetterie d'un particulier à côté, où la robinetterie s'enflammait. Mm-hmm. Et là, c'est une étude plutôt sérieuse.
Exactement. Donc, effectivement, ce sont des scientifiques qui ont étudié, donc, comme on l'indiquait à l'instant, les effets sur la santé, donc, d'une vie à proximité d'un puits de gaz de schiste. Alors, sur 125 000 naissances, sur une période relativement longue, donc de 1996 à 2009, dans un état, le Colorado, où il faut le rappeler, il y a 26% des 47 000 puits donc, qui existent aux États-Unis. Et donc, c'est apparemment un sujet très important au Colorado. Et donc, effectivement, cette étude a mis en lumière que vivre à côté d'un puits de gaz de schiste, eh bien, affectait particulièrement la santé des nouveau-nés.
Mince alors!
Voilà. Et donc, il y aurait des formes de malformations très importantes, surtout dues à l'inhalation de benzène, un gaz vraiment apparemment toxique. Hein.
Sans doute, moi j'évite d'en inhaler.
Ouais, moi tous les jours. Et donc, des malformations particulières, donc du tube neural, malformations buccales, bec de lèvres, etc., anomalies cardiaques, naissances prématurées. Donc, le taux observé dans le Colorado est plus important, plus élevé que dans les autres États des États-Unis où il y a moins de puits de gaz de schiste, effectivement. Et donc, ces scientifiques ont mis en lumière vraiment un lien entre une forte production de benzène à côté de ces puits de gaz de schiste et donc, des problèmes de santé relativement graves chez les nouveau-nés.
Moi, ce qui me rassure, c'est que visiblement, en France, on va trouver des moyens d'extraction douce.
Enfin, c'est ce qu'on nous recherche.
Voilà, c'est ce qu'il y a actuellement. Donc, nous, on va réussir à extraire le gaz de schiste
sans
fracturation hydraulique ou sans.
Là, c'est une étude quand même de dingue. Enfin, c'est pas rien, tout ce que tu dis, la malformation, etc. Enfin, en gros, les familles ne peuvent pas habiter près de ces exploitations, quoi.
Exactement. Et donc, apparemment sérieuse, reconnue. Donc, moi, je tire l'article du Monde, qui habituellement vérifie ses sources, donc on peut lui donner un certain crédit. Et effectivement, ça met en lumière.
En attente de confirmation suivi par d'autres études, mais en tout cas, c'est un vrai signe d'alarme en tout cas.
Voilà. Et comme d'habitude, je suis pas sûr que ce type de résultat ait un grand effet à court terme sur l'exploitation du gaz de schiste.
Au moins aux États-Unis.
Voilà, au moins aux États-Unis. Et même actuellement, quand on entend les discours en France,
oui, mais c'est sauvage quand même.
Il y a quand même une grosse volonté. Il y a tellement d'argent en jeu que les gens sont prêts à passer outre ce genre de problème.
Mais en fait, en France, heureusement, on a l'arme absolue qui est le principe de précaution.
Pour l'instant, mais enfin le principe de précaution, on l'a eu notamment pour les OGM. On était protégé jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et le Sénat a dernièrement retoqué l'interdiction d'un maïs. Alors c'est pas notre producteur préféré, mais c'en est un autre. Et les agriculteurs, on est dans la période des semis, et donc ils sont pressés de s'engouffrer dans la brèche, parce qu'une fois que le maïs OGM sera semé, le mal sera fait et on ne pourra plus le retirer. Donc on est dans un moment un peu particulier par rapport à la culture du maïs OGM. Beaucoup d'agriculteurs, sans doute conseillés par leur fournisseur préféré de céréales, ont envie de se lancer parce que ça leur permet de lutter contre un petit insecte, je crois, qui mange le maïs. Alors il faut bien savoir que, ce qu'on avait déjà dit dans une précédente émission, la présence de maïs OGM ne permet pas de réduire la quantité de produits qui doit être étalée sur les cultures, puisque il y a d'autres produits qui vont devoir être mis, même si le maïs est résistant, il n'est pas résistant à tout. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que le Sénat a encore fait parler de lui avec, je trouve, une mesure bien particulière, puisque l'interdiction du maïs semblait acquise. Et je ne sais pas, pour montrer qu'ils étaient là, ils ont retoqué. Donc c'est toujours un peu bizarre.
Et donc voilà, après l'affaire de l'immunité de l'un de leurs congénères, et bien l'OGM, voilà. Un autre thème d'actualité, on avait déjà parlé avec notre invité quand on a parlé d'apiculture, c'est la chute de la production de miel en France, là, qui se confirme à nouveau, puisqu'on a les chiffres pour 2013. Donc, pour bien comprendre, pour bien prendre conscience de ce problème, deux données. La production de miel en France en 2013, c'était 15 000 tonnes de miel. Alors que jusqu'en 95 précisément, c'était 33 000 tonnes. Donc la production de miel a été divisée par deux.
Alors ça, c'est une production en fait qui correspond, parce que c'est les particuliers en fait qui n'ont plus de ruches, ou alors c'est vraiment les gros producteurs qui eux-mêmes sont confrontés à cette problématique et qui n'arrivent plus à produire suffisamment.
Alors en fait, serait compris dans cette donnée à la fois les professionnels donc et les amateurs. Mais malgré tout, ce qui est curieux, et peut-être que tu pourras commenter, Kevin, ça, le nombre de ruches reste stable en 20 ans. Donc on a toujours un peu plus d'un million de ruches en France, mais la production de miel chute. Donc il y a la mortalité des abeilles. On ne peut pas parler de rendement, malheureusement. Les abeilles, elles n'ont pas cette notion-là, mais effectivement, il y a une forte mortalité.
Ok, je t'avouerai, je ne pourrais pas trop te préciser, parce que le process apicole des particuliers, il n'a quand même rien à voir avec celui des industriels. C'est pas du tout les mêmes techniques.
Le process apicole, c'est en un seul mot.
Alors, ce qui est intéressant aussi, ce qui est alarmant derrière cette évolution, comme je viens de l'indiquer, c'est la mortalité des abeilles. Et quel peut être l'effet de cette mortalité des abeilles, puisqu'on sait que 35% des ressources alimentaires dans le monde dépendent de la pollinisation à 80% des abeilles. Donc, il faut rappeler que si on peut manger, en grande partie, c'est parce qu'il y a des abeilles et qu'elles ont cette capacité à polliniser. Alors la cause qui est avancée, bien sûr, on en avait parlé avec une autre invitée lorsqu'on avait consacré l'émission.
Avec
voilà, donc ça concerne ces pesticides. Alors vous m'excuserez si je bafouille un peu sur le nom. Donc les néonicotinoïdes. Je le fais lentement. Et bien sûr, on a quelques grands groupes qui sont dans le viseur, notamment Bayer. Mais aussi, bien sûr, les exploitants agricoles, puisque il y a un grand tournant dans l'utilisation de ces produits, qui est 1994. Avant 94, ces produits n'étaient pas autorisés. Depuis 94, ils le sont, malgré différentes actions d'associations environnementales, etc., qui a permis, malgré tout, d'interdire certains produits, mais pas tous, certains pesticides, mais pas tous. Oui, Fred ?
Non, je voulais juste rebondir, mais je n'arrive pas à avoir accès à ma messagerie, donc je ne pourrais pas donner les chiffres exacts. J'ai reçu aujourd'hui un sondage qui montrait qu'une majorité de Français, alors je ne vais pas vous donner de chiffres, disait qu'on pouvait faire plus, pensait qu'on pouvait faire plus sur la lutte contre justement les pesticides. Et s'il y a une majorité de Français, alors c'est un sondage, mais je pense que l'opinion publique elle peut avoir un rôle important dans la prise de décision qui soit plus rapide et plus contraignante pour l'utilisation de ce type de produit.
Et tu penses cela même s'il y a des directives européennes, tu penses pas que ils vont nous faire avaler quoi que ce soit malgré que...
Je pense que face à ce genre de décision, les lobbies sont forts et pour que les choses évoluent, il faut une prise de conscience du peuple. Hein. Il faut se lever. Levez-vous tous.
Donc, d'autres informations sur ce thème, effectivement, on s'aperçoit que sur certaines plantes aujourd'hui, les cultivateurs traitent les plantes de façon préventive avec des pesticides systémiques, c'est-à-dire présents dans toutes les parties de la plante. Et là, on pense aux abricots, aux tomates, aux cornichons, aux figues, aux framboises. Donc, ça ne cible plus un parasite ou bien un insecte ou une partie de la plante. Ce sont des pesticides qui agissent sur l'intégralité de la plante à titre préventif.
Et donc, on va forcément retrouver dans nos assiettes.
Exactement. Donc voilà, pour l'actualité, on se retrouve après une pause musicale pour notre thème d'aujourd'hui.
Je ne sais pas si on se retrouve, parce que est-ce qu'après la pause musicale, on ne va pas partir directement ?
Eh oui, on va faire un petit voyage spatio-temporel. On va se retrouver en plein centre-ville d'Évreux un samedi matin, juste après la musique.
Début février.
si on peut parler quand même pour les auditeurs de où est-ce qu'on se trouve, sur quelle place, qu'est-ce qu'on voit.
Donc nous sommes placés Tourcelles, dans le centre-ville d'Évreux, un samedi matin à 11h.
Le samedi 1er février.
Samedi 1er février.
Et qu'est-ce qui nous vaut l'honneur d'être ici?
La journée nationale de des villes en transition, je crois. Je crois que c'est un événement national.
C'est l'événement national. Voilà. Donc en fait, en gros, voilà, on se retrouve avec des petits chapiteaux, avec des exposants.
Des associations locales qui...
Si je compte bien, on a 9 chapiteaux, et donc vraiment différents exposants, puisque certains sont sur l'alimentation, d'autres sur l'énergie, l'autre sur l'éco-citoyenneté.
Et le commerce de proximité.
Ça, c'est l'alimentation.
Ok, très bien.
On va aller les rencontrer, un par un.
Donc alors là, le premier stand qu'on découvre, c'est la transition alimentaire. Donc on voit des protéines vertes, donc c'est plutôt un sujet d'actu.
Et donc on va laisser les deux dernières dames.
On attend notre tour. En fin de compte, là, on fait la queue.
Poliment. On va essayer de s'approcher quand même un petit peu. Comme vous l'avez vu, en fait, j'ai un petit micro avec moi. Je me présente, je m'appelle Kevin. Voici mes collègues, Jérôme et Fred.
Bonjour.
Bonjour.
Excusez-moi, j'ai les mains glacées.
J'avoue, c'est le temps.
Merci. Voilà.
Au revoir, mesdames.
Au revoir.
Et en fait, on se présente. On est animateur sur la radio Principe Actif.
Ouais.
Et nous animons une émission en fait qui s'appelle Un air de vie. Peut-être que vous connaissez déjà.
Non.
Voilà.
Attends d'écouter la radio.
C'est une émission en fait qui propose de parler d'écologie, de thématiques qui touchent à tout ça et des thèmes nationaux. Et surtout, on essaie de les appliquer à l'échelle locale. Ouais. Donc en fait, on essaie de faire témoigner les gens qui.
Pour moi, la transition alimentaire, elle est vraiment au cœur du changement, parce que tant qu'on continuera d'avoir des habitudes alimentaires qui détruisent l'environnement, qui créent des élevages qui ressemblent à des camps de concentration ou même l'élevage des abeilles.
Les élevages intensifs,
Tout ce qui tourne autour de l'animal, il n'y aura rien de changé, parce qu'on est de plus en plus nombreux, donc on ne pourra pas, c'est pas possible.
Alors, juste pour
on va manger du beefsteak chimique ou des poudres d'insectes.
J'en parlais juste avant.
Donc là, moi j'ai mis un petit échantillon de protéines végétales qui contiennent les 8 acides aminés. C'est archi complet. Vous avez même des oméga 3.
Alors oui, voilà. Qu'est-ce qu'on
la
trouve chez vous alors?
Le oméga 3. Il faut pas le fumer, il faut le manger.
C'est pour la jeune génération qui nous a sur Principe Actif.
Alors voilà, en fait, vous vendez en fait des sachets à peu près de 500 grammes.
C'est des sachets de 500 grammes, ça. Et donc, c'est des petites pelotes. C'est de la graine décortiquée. Vous pouvez faire du lait avec, vous pouvez faire des smoothies, vous pouvez faire des préparations comme ça. Ici, il y en a. Là-dedans, il y en a.
Alors en fait, il dirait des sortes
de
petits sablés. Ah, c'est des boulettes de viande, là des petits sablés, je vais dire, en myrtille, mais point du tout.
C'est de la viande sans viande.
C'est de la viande sans viande. Alors expliquez-nous ça.
Il y a les 8 acides aminés, donc il y a des graines de chanvre, des graines de chia, des légumes et des épices. Voilà. Vous les goûtez?
Volontiers. Mais alors pourquoi utiliser le terme viande s'il n'y a pas de viande? En fait, c'est parce que les éléments constitutifs de la viande.
Je dis viande parce que c'est protéines. Alors ça n'a pas le goût de viande, désolé.
Non, mais normalement, je connais.
Je cherche, mais j'ai pas trouvé.
Vas-y, Jérôme, tu veux goûter?
Pardon, excusez-moi.
Tout le monde va goûter. On aime, on n'aime pas.
Merci.
Non, mais c'est sympa.
C'est sympa? C'est sympa?
Oui, non, c'est le.
Dire que c'est un goût de viande.
Carrément, c'est bien relevé.
Voilà,
c'est goûtu. En fait, les graines de chia, c'est quoi? C'est pas très connu en fait.
Je donne des cours, ça vous intéresse. Je donne des cours de cuisine, donc. Petite cité.
Alors en fait, pour vous présenter, vous êtes Emmanuel Petit?
Alors moi, c'est Emmanuel Petit, je suis naturopathe rue de la Petite Cité.
Non, parce qu'on a un ami qui s'appelle Emmanuel Petit.
Je suis animateur sur la radio et qui s'appelle Emmanuel Petit.
Mais moi, c'est deux élo.
Deux élo, exactement.
Voilà, donc je fais des cours et je fais des soins.
D'accord.
En médecine naturelle.
Et donc, toutes ces graines, toutes ces plantes, elles viennent d'où?
Alors ça, c'est français. C'est culture française, je l'achète en Bretagne.
D'accord.
Alors le chia, non, c'est pas français, ça vient d'ailleurs.
C'est-à-dire, ça vient d'où?
Ça pousse en Asie, mais peut-être ça pourrait pousser ici. Regardez, les begoji, l'origine, c'est la Chine, le Tibet, mais ça pousse en France.
D'accord.
Maintenant, il y a des gens qui en ont fait pousser en France. Moi, j'en ai fait un pied dans mon jardin.
Et ça pousse bien.
Il me donne des baies.
Ah ouais, d'accord.
Ça fait 3 ans. J'ai planté il y a 3 ans, il me donne des baies.
Donc le climat normand, c'est pas mal pour les baies de goji.
Et la spiruline, il y a des producteurs aussi en Normandie.
Et la spiruline, c'est quoi?
Alors la spiruline, c'est une micro-algue d'eau douce qui est très riche en acides aminés aussi, qui contient tous les acides aminés, qui est très riche en chlorophylle, qui contient même un peu de vitamine D. Alors qu'on sait qu'on n'a aucun végétal qui contient de la vitamine D, on en a un peu dans la spiruline. Donc voilà, c'est des...
Nous, là, il y a quelque chose qui frappe, c'est qu'on voit l'écriture, en fait, alimentation vivante.
Alors, ouais, parce que c'est pas cuit. Il n'y a rien n'est cuit.
D'accord. Et donc, vous, qu'est-ce qui... parce qu'en fait, là, vous participez à la journée de la transition. Ouais. Est-ce que vous avez un message particulier là-dessus?
Oui, moi, c'est par rapport à l'alimentation, parce que je vois plein de gens qui parlent de transition, qui sont avec leur café et leur steak frites. Oui. C'est pas une transition, ça.
J'adore un steak frites.
J'ai rien contre, mais si on mange que ça ou tout le temps ça,
je comprends, c'est pour ça
qu'il faut amener d'autres choses, une autre façon de penser. Moi, je veux bien venir poser si vous voulez.
La mission est souvent ouverte. Ok, ça marche. Merci beaucoup en tout cas pour votre accueil.
De changer son alimentation.
Ça demande l'implication, des efforts.
Mais c'est pour ça. Il ne faut pas le faire. Il n'y a pas de temps pour les
Pourtant c'était un beau ciel gris ce matin, mais au début il y avait du ciel bleu et ouais ça c'est bleu. Tant mieux. On continue.
Bonjour, je suis le responsable du restaurant Qui l'eût cru à Évreux, donc juste en face du bowling Le Parvis au centre-ville. Mm-hmm. Donc je fais bar à jeu, donc jeu de société le soir, et le midi je fais la brasserie Locavore, donc ça veut dire avec des produits locaux, des produits issus du maraîchage et de l'élevage.
Ouais. Mm-hmm.
Et donc qu'est-ce que je fais là aujourd'hui? Je propose une petite gamme de produits locaux, donc surtout les sodas normands, donc la Mecola ou la limonade.
La limonade, c'est
exactement
ça,
avec toutes les fautes d'orthographe qui vont bien avec. Et donc là moi je suis sur des produits normands, donc le but c'est de proposer d'autres produits que ceux qu'on a en industriel, parce que ça c'est artisanal. Donc, le concept en fait c'est de dire que on peut avoir des entreprises justement engagées sur la transition énergétique, sur le circuit court, etc. Donc c'est le but.
Donc là parce que, par exemple la limonade, elle vient d'où la limonade?
Elle vient de Saint-Père dans la Manche. Donc c'est en fait lui fait partie d'un collectif qui s'appelle Produits Coop, et ils reprennent tous les producteurs de Basse Normandie, que ce soit des jus de pommes, de la spiruline, des jus de fruits, etc. Et en fait ils sont montés en coopérative pour fédérer la communication, les achats et tout. Et donc là la limonade, c'est le monsieur, c'est la société Solibulle.
Alors, limonade bio et rebelle.
C'est ça. Et on a en collector la Mecola pirate.
Avec la vache pirate.
Et la vache pirate, s'il vous plaît.
D'accord. Et à part ces produits-là, vous fournissez où? Du local à Évreux, on va où?
On veut manger un Kill Burger comme j'ai mangé jeudi midi.
Le Kill Burger, donc le pain est fait à la boulangerie Le Penant dans la rue Chartraine. Mm-hmm. C'est du pain bagna, donc c'est un petit pain au lait sucré. La viande, c'est une viande normande, enfin issue de Normandie. Après, certains produits que je peux pas avoir en Normandie, genre les tomates séchées, etc., je les prends à Biocoop,
ouais,
pour avoir un petit peu de démarche bio et de développement durable. Et puis sinon, après, sur tout ce qui est produit de maraîchage, je le fournis sur des producteurs, soit au marché,
oui,
donc pour les champignons, et puis soit au jardin d'à côté à Plessis-Grosrand.
Et en fait, qu'est-ce qui vous a fait rentrer dans cette démarche? Pourquoi faire ça? Il y avait un dégoût du système habituel. Vous avez trouvé ça, vous avez eu des connaissances, et puis vous dites tiens, finalement je peux le faire différemment et c'est possible.
Bah, d'où le nom qui lui crut. le but, c'est de se dire il y a toujours une alternative possible. Il suffit de s'engager pour faire autre chose autrement. Vraiment dans l'heure, je dis bien dans l'heure, on a vraiment presque tout ce qu'il faut pour être en autarcie niveau alimentation, brasserie, etc. Se dire en sponsorisant, en faisant marcher justement les producteurs locaux, du coup l'argent et le reste local, on sponsorise et on subventionne le savoir-faire local. Ce qui fait que ça va développer l'agriculture, ça va développer le savoir-faire, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est un engrenage qu'il faut mettre
en
avant.
L'appropriation, ouais, en fait. Ouais.
En fait, si j'ai mis ça en place, c'est pour, au lieu de refaire le monde en permanence avec les amis et tout, se dire, j'ai un support commercial, et c'est le but, c'est d'injecter tout dedans. Voilà.
Avoir une démarche constructive, quoi.
C'est ça. C'est le but, c'est d'être concret, de se dire, c'est possible. Après, je suis sur deux univers, donc la locavore, et après barrageux. Donc, ce qui fait que j'ai une clientèle le midi et une autre clientèle le soir.
Ah oui, alors ça peut virer. Justement, sans net, vous avez une page, un site web.
Tout à fait. Oui, ça s'appelle Qui Cru Concept ou Qui Cru Tapas. Et ouais, sur mon site Facebook, etc., il y a mes animations. Je fais un concert par mois, du karaoké toutes les deux semaines. Et puis tous les jeudis soirs, je fais. Ça s'appelle le Nanar du Kill. Donc j'ai le Nanar, c'est quoi? C'est un film sans grand budget, où il y a des grands films budget,
des grandes productions turques.
Exactement. Donc j'ai diffusé Turkish Star Wars. Cette semaine c'était Black Samurai. Donc le but, c'est de se dire on peut arriver en retard devant un film, il y a popcorn, et puis le but, c'est de.
Ouais, c'est vraiment le film des contractions.
Le but, c'est parler pendant le film et critiquer le film.
Rigoler grassement. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil.
Merci à vous.
Vous pouvez vous rappeler comment vous appelez?
Donc c'est Camille pour le Qui l'a cru à Évreux.
Voilà.
Peu importe la direction où je vais, le vent me porte en toutes les ans, me dirige depuis l'enfance vers cet acte de conscience. Cinq sens, oui, j'ai entendu ce qu'ils m'ont dit, j'ai ri. Ne fais pas cela, ne fais pas ceci, prends pas la direction des MC. Oui, mais moi j'y suis, oui. Oui, j'ai entendu tous ces pencules, les mêmes qui te regardent dans la rue, vu leur vie virulente de mépris, j'ai compris l'importance de lui. Oui, oui, en entendant ces gens, j'ai compris la connerie des incompétents de la vie. J'entends maintenant le changement. Peu importe la direction où je vais, le vent me porte en toute aisance, me dirige depuis l'enfance vers cet acte de conscience. Cinq sens, vu l'émission de vos télévisions qui d'un vent violent tue les valeurs de vos nations. Vu que personne ne fait rien, vu que je les vois moi en vivant vainement la vie virtuelle auquel je t'en veux. les visionnaires à de franquitude, tout ce qui peut avoir l'air de vivant, vanité et valeur, vos sentiments, vos guides et ses vipères, à piquer leurs enfants qui veulent goûter, j'aimerais bien goûter, faudrait bien goûter, on devrait goûter, l'épanouissement de plus près, le goût de la vie qui dit qu'un enfant joué ne doit pas travailler, dégoûté de voir les droits de l'enfant bafoués par tous ces PDG qui, s'ils le pouvaient, feraient bosser le nouveau-né. Je hais, je sais que mes mains et ce que j'en fais feront fléchir les fous furieux et vieux. Fini les feignants qui freinent nos élans en affamant le peuple et ses enfants. Pom pom, nous allons les fumer avec nos phrasés pour mieux les toucher. Paix, pas de sang, pas de sang. Les mauvaises odeurs du temps qui te font te poudrer le nez au lieu de vivre autrement puissant. L'odeur des éléments, la vérité, si je m'en vais, tu m'entends jamais, je te parlerai différemment. Parole d'honneur, 1000 langages pour 4 couleurs, jaune, blanc, black, beurre, l'unité est dans nos cœurs et meurt. Le pourri de dictateur qui donne une sale image, des paroles des sages. La rage en nous se contrôle, elle traversera la terre, parler de voler pour ça on pense. Avec nos 5 sens, peu importe la direction où je vais, le vent me porte en toute aisance, me dirige depuis l'enfance vers cet acte de conscience. 5 sens.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Non, 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 absolument.
Alors, en fait, on me remet dans les mains un papier collectif pour une transition citoyenne. Donc en fait, c'est par rapport à la journée d'aujourd'hui, cette journée nationale de transition énergétique.
Pas de transition énergétique seulement.
Alors justement, qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'en fait, nous on se présente, donc Jérôme, Fred et Kevin, nous sommes de la radio Principe Active, donc la radio locale d'Evreux, de participer à cette journée. Alors allez-y, vous avez libre antenne à vous.
Ben, je préférerais passer, parce que la dame qui est là, elle connaît mieux que vous. Moi. Elle est plus à l'aise, c'est elle qui est un peu notre...
Votre chef,
notre le guide un peu, ouais. Hein, donc je préférais que ce soit elle qui... Du reste, elle est intervenue avec... Hier matin.
La radio, oui, j'ai entendu.
Oui, oui, et Laurence.
Bonjour. Bonjour. C'est encore la radio Principe Actif. Voilà, et là on profite de la journée pour faire un reportage et voir exposant par exposant les gens qui participent
vous
à cette journée.
Timothée
non, moi je suis pas Timothée, je suis Kevin.
Alors, nous, on n'est pas Kevin à Principe Actif.
On n'est pas les...
Qu'est-ce que vous attendez que je vous dise?
De villes en transition, déjà voilà. C'est quoi?
Alors les villes en transition, là je suis pas bien placée, c'est Robin Brochu qu'il faut interviewer sur les villes en transition spécialement. Parce que c'est un mouvement qui est national et international. Et donc il y a des visées très précises, notamment sur l'après-pétrole.
Donc Robin Brochu, c'est la personne que vous pouvez voir souvent dans Évreux à vélo, qui a les cheveux bouclés.
Il a les cheveux bouclés, alors il était là.
Et qui organise en fait des journées dans les bars pour de thématiques,
voilà,
donc on a déjà été voir.
Sur l'après-pétrole.
Voilà,
mais justement.
J'avais reconnu le graphisme sur l'affiche.
Voilà, donc effectivement, mais nous sommes aussi un collectif d'associations qui œuvront aussi dans l'écologie, la transition citoyenne, etc. Et qui nous plus qui avons mutualisé avec Robin parce qu'on était sous la même étiquette collectif Transition Citoyenne, qui est un mouvement national et qui veut aussi susciter des initiatives locales.
Alors, il vise quoi ce mouvement justement de Transition Citoyenne?
Ben, ce mouvement, alors, il vise de slogan, c'est prenons notre avenir en main.
Donc de réimpliquer chaque personne dans la maîtrise de son environnement, de sa façon de vivre, etc.
Absolument.
Parce que en fait, vous partez d'un constat où la situation ne va pas bien, enfin, elle ne vous convient pas. Là, pour vous, là, faut changer,
voilà.
Quoi.
Voilà. L'idée, c'est prenons part à la construction de la société de demain en donnant envie, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, à un maximum de personnes de s'engager dans une transition écologique, sociale et humaine. Donc c'est très large. Donc c'est effectivement les villes en transition, mais aussi les colibris, mais aussi les AMAP, mais aussi là ici on a il y a aussi Terre de Liens, il y a aussi les Biocop. Ici nous avons Artisans du Monde. Donc c'est quand même très large.
Oui, donc voilà. En fait l'idée c'est de faire au lieu de parler seulement de la transition énergétique, donc finalement des moyens, des process qui vont être différenciés. Vous dites qu'il faut aussi un changement du comportement finalement du consommateur et qu'il soit plutôt citoyen plus que consommateur lambda, quoi.
Voilà. Donc c'est pour ça que nous posons la question aujourd'hui.
Nous sommes acteurs.
Citoyen, pour vous c'est quoi? Est-ce que vous êtes consommateur, consommateur ou consommateur? Les transports pour vous demain c'est quoi? Les élections c'est quoi? Est-ce que ça vous suffit? Est-ce que ça vous suffit pas? Est-ce qu'on n'est que grognon, voire mouton, ou est-ce qu'on se bouge? Les éco-quartiers, finalement, il y a aussi des initiatives. Donc c'est pour ça qu'ici, je trouve ça très intéressant qu'il y ait des initiatives de toutes sortes, donc dans le domaine de l'esthétique, dans le domaine de la cuisine, dans le domaine de l'agriculture, bien sûr, et dans le domaine citoyen, de la réflexion. Pardon.
Et donc vous, en fait, vous êtes bénévole, alors?
Oui, complètement, oui. Ouais, pour qui voudriez-vous que ça
soit payé? Non, mais
c'est bien, vous rencontrez un mouton grognon. Vous faites quoi?
Voilà, qu'est-ce que vous lui dites?
Si c'est comment?
Déjà, je lui dis, mais...
Attendez, vous l'accueillez avec grand bras ouverts.
Regardez, il fait beau. Aujourd'hui, là, bah, on en a rencontré ce matin, pas mal. Ouais, de toute façon, ça sert à quoi? Puis les politiques, j'en ai marre. Bon, ben bah, oui, d'accord, mais justement, on est là Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Comment est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez faire un petit quelque chose? Oui, mais mon voisin, ah ben oui, mais justement votre voisin, c'est... ah oui, d'accord, bon, enfin, finalement on finit par trouver des petits moyens. Donc quelqu'un qui était très en colère, puis tout d'un coup il a reconnu qu'on se connaissait. Ah ben oui, alors tout d'un coup, ça changeait. Enfin, voilà.
Oui, parce qu'au final, vous n'êtes pas là pour prêcher les convertis, à mon avis, même si bon, bah, on peut le dire, il y a un esprit bon enfant, forcément, on peut revoir du monde et des gens que vous connaissez sûrement déjà. Mais finalement, cette personne, le grognon, c'est la personne à qui vous cherchez de parler, parce qu'une personne qui sera indifférente ne vient même pas vous voir. Finalement, c'est vraiment lui, votre cible, alors, la personne que vous cherchez à convaincre.
Parce qu'à la limite, le grognon, il c'est pas mal déjà d'être grognon.
Bah ouais, c'est une forme de réaction.
Alors moi, ce que je trouve qui est difficile, c'est les gens très pessimistes qui se disent il n'y a plus rien à faire.
Ah, qui tombent dans le cynisme un peu, non?
Bah après. Oui, et des gens un peu, oui, qui sont un peu dépressifs ou je sais pas quoi, et la fatalité, etc. Mmh. Ça, c'est le plus difficile. Mais en même temps, c'est leur choix. Enfin, on va pas les convaincre. Moi, j'ai pas prétention de convaincre. Mais en même temps, peut-être de donner un toute petite lueur d'espoir. Parce que aussi, les gens qui disent, ouais, mais regardez, on est comme dans les années 1930. Donc, ça veut dire quoi? Ben oui, mais on a encore une marge de manœuvre pour agir. Et c'est bien le mouvement qu'on essaye de faire en ce moment.
Et donc, justement, vous, pour arriver à lui donner donc une lueur d'espoir, vous appuyez sur quoi, en fait? Justement, sur ouvrir les yeux, regarder ça marche, il y a des initiatives
sur le côté convivial, relations humaines qu'on peut découvrir,
oui,
dans certaines actions,
voilà, etc. C'est ça,
retrouver la notion de groupe, voilà. D'échange
et de petites actions au jour le jour, c'est à dire à quelqu'un qui nous a mis pour moi être citoyen c'est ramasser les crottes de chien. Bon, ça fait c'est pas grand chose, mais il y a d'autres gens qui disent c'est respecter son voisin. Et bien, peut-être que ramasser les crottes de chien c'est déjà commencer à respecter son voisin, donc ça peut faire un peu ridicule,
j'allais dire boule de neige, mais c'est dangereux.
Non, mais c'est pour montrer qu'en fait, c'est des petites choses, chacun à son niveau.
Peut faire,
voilà, du quotidien. Voilà,
chacun peut agir. Ouais.
Et ça, beaucoup, quand on discute avec les colibris, vous connaissez peut-être pas les colibris, non. Pierre Rabhi.
Pierre Rabhi avec la petite goutte d'eau, avec l'incendie.
Voilà, c'est ça, voilà. Okay. Et là, non mais, pour votre émission, ça pourrait être intéressant qu'il y ait quelqu'un des colibris qui vienne vous en parler, parce qu'ils sont... Ils sont individualisés parce qu'il y a beaucoup de gens qui en font partie, mais il n'y a pas de groupe à Évreux. Il y a un groupe à Verneuil-sur-Avre, par contre. C'est-à-dire qu'au niveau, national, là, il faut que je mette mes lunettes, je ne lis plus, vous avez donc 14 associations, donc il est porté, ce mouvement, par la MEF, Eurocop, Énergie Partagée, la CFE, le réseau Cocagne, les jardins de Cocagne, les Amis de la Terre, le plan S, j'ai un peu de doc pour vous, Ville en Transition, c'est Hopkins,
Bioconsommateur,
les Colibris, et je dirais que les Colibris,
les AMAP,
j'en ai oublié, Biocop, peut-être.
Attaque.
Voilà. Et donc, nous, personnellement, on n'est pas dans ces mouvements-là, on est dans une autre association qui était dans le pacte civique. Mais le pacte civique, c'est complètement parallèle, donc à un moment donné, il soutient complètement aussi ce type d'action. Donc voilà, donc il y a même encore plus d'associations que ça. Donc c'est très diversifié.
Ouais, c'est un maillage, en fait.
C'est un maillage. Je crois que le terme de réseau, de maillage, est un bon terme. Ouais.
Bien.
Merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup. C'est très bien. On va continuer notre petit tour.
Ça m'amuse parce que moi j'ai été au départ de Rêve 89. Alors ça remonte. Hein. C'était en 89. La première radio locale d'Évreux.
C'était la première d'Évreux.
Ouais. Quand on a lancé les radios locales, j'étais à la MJC à l'époque. On avait monté la Rêve 89 avec Pierre Petit à l'époque. Voilà.
Bah nous, on continue à notre petit niveau.
Bah ouais,
c'est la transition. Voilà.
Je n'ai s'affamé de demain.
en fait, on s'intéresse à chaque exposant qui sont.
Eh bien, moi je suis là non pas pour les jardiniers mais pour Terre de Liens.
Pour
Terre de Liens.
Terre de Liens, oui.
Alors Terre de Liens, c'est quoi? C'est une association d'abord, hein, donc on peut adhérer à l'association. Et nous, on a des outils, la foncière des Terres de Liens et la fondation. Et donc la foncière, c'est de la finance solidaire. Donc les citoyens peuvent prendre des actions pour installer des jeunes agriculteurs en agriculture biologique.
D'accord.
Voilà. Donc dans l'heure, puisqu'on est dans l'heure, oui. On a installé dernièrement deux fermes.
Ça concrètement, ce sont deux fermes qui ont pu s'ouvrir, en fait se lancer grâce à votre association.
Bien sûr.
Par cet esprit en fait d'entraide, avec toujours forcément des critères, faut être dans le bio.
Il faut être dans le bio, c'est-à-dire que l'agriculteur qui s'installe, il a un bail rural environnemental. Voilà. On mobilise aussi les citoyens autour d'un projet, les financements, c'est que des actions de 102 euros. Alors, cette ferme-là, par exemple, des Comignons, on a réussi à mobiliser 75 000 euros de fonds de gens comme vous et moi.
Mais alors, donc, je donne un peu d'argent, je deviens propriétaire d'une partie.
Non,
pas du capitalisme.
Non, c'est pas du capitalisme. Non. C'est Terre de Liens qui est propriétaire. Et la terre qui est achetée par Terre de Liens n'ira jamais à une construction. Zone artisanale, etc.
Donc moi, Jérôme, je donne à l'association Terre de Liens. Oui. Et après, c'est Terre de Liens qui assure l'intermédiaire pour favoriser la mise en place d'une ferme vocation. Voilà.
Mais toi, Jérôme, pourquoi tu donnerais 100 euros à l'association, en fait?
Pourquoi je donnerais 100 euros à l'association?
Eh bien, d'abord parce que les 100 euros que tu vas donner à l'association, ça va servir à créer de l'emploi, à installer un agriculteur qui va vivre sur sa ferme. En général, avec des circuits courts, c'est-à-dire avec les AMAP, les marchés, etc. Donc
l'agriculteur, lui, s'engage aussi à travailler en circuit court, avec les AMAP, etc.
D'accord. Ouais, voilà. Et donc, tu vas savoir où va ton argent. C'est-à-dire que tes 100 euros que tu auras placés, tu vas savoir que ça va aller à quelque chose de concret. Alors que si tu les places à la caisse d'épargne ou je sais pas quoi, des actions, machin, tu vas pas savoir ce que ça fait parce que les banques, elles utilisent pour
acheter quelque chose. Je soutiens une initiative locale, et donc une mise en place de circuits économiques locaux.
Mais voilà, c'est pas non plus comme un placement à la banque, ça va pas apporter des intérêts.
Ça ne rapporte pas d'intérêt, c'est-à-dire que...
C'est un don à une association.
Non, c'est pas un don.
Alors, c'est quoi,
parce qu'il y a deux choses. La foncière de Terre de Liens, c'est un investissement, c'est de l'investissement solidaire. Voilà. C'est-à-dire que les gens, ils prennent des actions et puis ils les gardent 5 ans, 10 ans... Ces actions-là, elles peuvent bénéficier de déduction d'impôt, enfin de crédit d'impôt. Voilà, donc l'action est réévaluée régulièrement, c'est-à-dire qu'au départ, l'action était à 100 euros et là, elle est à 102 euros en fonction de...
Donc en fait, c'est quand même une action, sauf qu'on n'est pas propriétaire direct de l'action. On peut la revendre après?
On peut la céder.
D'accord.
On peut la céder ou on peut la faire rembourser. Hein, c'est-à-dire que celui qui veut sortir du circuit, il peut le sortir à tout moment, il en fait la demande, fait les remboursements en fonction des demandes.
Voilà. C'est une belle initiative.
Voilà, c'est du concret en tout cas. Hein.
C'est du clair. Concret. C'est
Sortez
du
billet de 100 euros, mais pour créer le monde que vous avez envie. Quoi.
Voilà, exactement.
Avec la conscience d'avoir créé un emploi local en plus.
Voilà, Ou deux, ou trois.
Ou
parce que, voilà. Voilà, par contre, la ferme des Communions, c'est deux emplois créés. Quoi.
Très bien. Bah, merci beaucoup. Bah, je suis passé, c'est bien passé.
Voilà.
Même si votre porte-parole ne s'est pas disponible. J'ai essayé de l'appeler, mais bon,
elle n'a pas. Tiffany, tu peux dire un mot aussi. Hein.
Ah, voilà.
Tiffany,
finalement, on va avoir quand même besoin de vous.
Parle-nous de Julien, parce que comme il est dans la radio aussi.
Le projet Onde.
Ouais.
Oui, en fait, on a un programme européen Jeunesse en Action et qui consiste. Pardon.
Le but, donc, c'est un projet qui s'appelle Onde, et le but, c'est de faire des émissions radiophoniques avec des citoyens. Donc, c'est les citoyens qui les conçoivent de A à Z. Ils font les interviews, ils font le scénario, ils font le montage. Et ensuite, c'est ces émissions qui durent une quinzaine de minutes. Elles sont diffusées à la fois sur le site internet de l'association Terre de Liens Normandie, et elles sont diffusées sur des radios associatives locales. Donc, on a comme principe actif, je crois, Évreux, comme, voilà, comme HDR, donc la radio des Hauts-de-Rouen sur Rouen. Et il y a des radios associatives aussi qui sont sur la basse Normandie, puisqu'on travaille, il y en a 8 à peu près radios.
Et donc, on peut les retrouver, ces émissions, c'est...
Le site, c'est Terre de Liens Normandie.
D'accord.
Voilà.
Terre de Liens, d'accord, hein, on ira voir. Ouais.
Voilà, sur Terre de Liens Normandie. C'est pas le site de Terre de Liens National, c'est le site de l'association régionale.
D'accord.
Voilà.
Okay, d'accord.
Donc, et puis, si Jean-Yves ou un autre administrateur ou quelqu'un veut venir faire une émission, il n'y a pas de problème pour témoigner sur un sujet. Okay.
Et si vous avez un mot alors aux gens, aux citoyens, pour venir donner un billet 100 euros, comme ça, qu'est-ce que vous pourrez dire?
On donne pas, on prend une action.
C'est vrai.
Tu veux manger bio, tu veux pas spéculer, tout ça, et ben tu prends des actions à Terre de Liens, et ça permet à des jeunes qui n'ont pas accès à du foncier de pouvoir s'installer.
Voilà, exactement. C'est une belle action. Ben, merci beaucoup en tout cas pour votre accueil. Merci. Bon, merci. Hein. Merci monsieur. Enercop que tu avais qu'on avait déjà découvert Enercop, c'était à quelle occasion
On a eu des conférences à l'hôtel d'agglomération qui avait accueilli une conférence sur la transition énergétique, et monsieur était intervenant au moment de la conférence à l'hôtel d'agglomération, Grand Évreux Agglomération, lorsqu'il y a eu le débat national sur la transition.
Exact.
Voilà.
Oui.
Et donc il était avec le monsieur de l'association de budget de mon papier de comment ça
Énergie partagée, il y avait et notamment
Eh ben non, il n'est pas dessus, je pense.
C'est pas énergie partagée.
Voilà,
ouais. Énergie. Bon, c'est un peu la même maison qu'Enercop, hein, mais ouais. Donc vous étiez dans le public
On était dans le public.
Nous étions.
D'accord.
Micro.
C'est vrai. Ah, j'ai pas le souvenir de ça.
Ah, on était très vite.
Ah, vous êtes qui, en fait?
On est des hommes de l'ombre, en fait.
On est la radio principe active, et on est animateur d'une émission bimensuelle, on peut dire le mot. Un air de vie qui traite des problématiques environnementales.
D'accord.
À mesure du possible, ramener à des problématiques locales.
D'accord, ok. Ok.
Donc, on peut représenter quand même l'association Enercop.
Alors, primo, juste pour corriger le mot, c'est important, ça n'est pas une association, c'est une coopérative, donc c'est une entreprise.
Voilà.
D'intérêt collectif. Et donc, c'est tout l'intérêt de ce collectif pour la transition qui fait qu'on est là aujourd'hui, qui veut proposer un autre modèle de société dans les différents domaines de la société, c'est de montrer qu'on peut être une entreprise, proposer un modèle alternatif, et en plus ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on fonctionne pas avec des subventions, quoi, comme c'est l'image qui est souvent retenue. Non, on est une entreprise qui doit faire du bénéfice pour vivre, et c'est ce qui se passe depuis 4-5 ans. Et voilà, donc notre coopérative propose une électricité d'origine renouvelable à 100%. Donc on a des contrats avec des producteurs qui possèdent eux-mêmes leur éolienne, leur moulin à eau, leur panneau photovoltaïque, qui passe évidemment par le réseau électrif ERDF. Et heureusement, parce qu'on ne va pas tendre des câbles en parallèle pour ça, ça serait complètement aberrant. Mais c'est un modèle démocratique.
Est-ce que vous favorisez l'installation?
On favorise l'installation, mais aujourd'hui, on ne le favorise pas financièrement, parce qu'il faut des moyens et on peut pas se permettre aujourd'hui. Mais c'est dans les objets statutaires de la coopérative. C'est-à-dire qu'on est une coopérative d'intérêt collectif, donc il y a l'aspect démocratique, mais il y a l'aspect aussi non spéculatif. Et on est à but non lucratif. Donc les bénéfices qu'on fait, ils ne peuvent pas être repartagés parmi les sociétaires. Donc ils sont réinvestis dans des moyens de production. Alors depuis 5 ans, on ne l'a pas fait, donc cet argent, il s'accumule, mais il est dans un compte, mais en attendant de pouvoir l'investir de manière éthique et vraiment cohérente.
Et vous avez utilisé le mot démocratique en quoi
ça l'est?
Oui.
Alors, une coopérative d'intérêt collectif, c'est du multisociétariat. Donc ça veut dire qu'un client, un producteur, une collectivité, les salariés en sont sociétaires. Et donc, il y a une assemblée générale une fois par an. Et au moins pendant cette assemblée générale, tous ces sociétaires-là sont invités à se positionner sur des objectifs stratégiques de la coopérative, à avoir aussi un regard sur la manière dont elle est gérée en interne, hein, avec les salariés. Mais eux-mêmes sont en droit de voter chaque année sur les ambitions de cette coopérative et de la manière dont on la gère, voire sur les tarifs de vente du kilowattheure. Hein, on peut se positionner là-dessus. Et donc c'est censé être un fonctionnement transversal. Quoi. Voilà. Et l'ambition d'Enercoop, c'est de se rapprocher des territoires. Puisqu'on va vers la décentralisation de la production et la réappropriation citoyenne de l'énergie. Et donc, ce n'est pas une entité qui est censée rester nationale. On crée des entités régionales.
Avec
donc,
des bassins de production et des moyens.
Avec un développement de la production et puis surtout une implication de plus en plus importante des gens dans les territoires. Quoi. Au lieu d'être sociétaire d'une structure nationale, on devient sociétaire d'une structure régionale. Mmh. Donc, bien plus proche de chez nous, qui participe au développement de la production. Mmh. Et donc, on va vers une production d'électricité qui va être consommée localement en plus.
Voilà, donc avec des productions locales un circuit court de production.
On est la map de l'électricité. Voilà.
Est-ce qu'il y a des choses justement de projeter localement sur le territoire des Vosges ou du département?
L'idée est de le faire, mais aujourd'hui il n'y a pas de. Je ne peux pas vous parler d'un projet concret parce que c'est pas la
même intention.
Mais voilà, l'idée partout en Normandie, ce serait ça.
Alors,
nous sommes à la recherche de porteurs de projets en Haute-Normandie, dans l'Eure par exemple, de gens qui ont comme ambition avec des habitants, avec des communes, etc., de monter, qui ont un projet éolien, un projet photovoltaïque, un projet hydro, et de le monter. Quoi.
Donc c'est vraiment ça que vous intégrez donc, dans cette démarche de ville en transition.
Exactement. D'accord. Exactement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça fait partie.
Effectivement, enfin, autour d'Évreux, il y a toujours malgré tout un petit potentiel d'énergie hydraulique, ouais, avec encore des propriétaires de moulins, de roues. Voilà. Et donc, effectivement, ce serait leur donner un coup de pouce, que les accompagner, ouais, etc. D'accord.
Alors nous, on veut vraiment travailler là-dessus, sachant que le domaine est particulièrement complexe dans l'administration française et que c'est pas facile de redévelopper, notamment dans l'hydroélectrique. Hein. Mais le but, pour nous, il est là. Quoi. C'est effectivement de relancer, si possible, des installations existantes, les valoriser, comme on dit aujourd'hui, par une production électrique, par exemple. Quoi.
D'accord.
Tout en respectant
la production électrique locale. Ça va être essentiellement du nucléaire, je suppose, dans l'Eure, enfin dans la région Normandie. Est-ce que vous avez de la production?
Alors nous, on a très peu de production pour Enercoop en Haute-Normandie. Très peu.
Quand on voit les 4 éoliennes du côté de...
Ah non, ça nous bénit. Alors en fait, le gros problème à ce niveau-là en France, c'est que... il y a un seul acteur qui peut pratiquer des tarifs d'achat de kilowattheure élevés, parce que remboursé sur ce tarif-là, c'est EDF, qui bénéficie d'une taxe qui s'appelle CSPE, la contribution au service public de l'électricité, que tout le monde paye sur sa facture d'électricité, que vous soyez chez Enercoop ou chez EDF, mais seulement EDF bénéficie de cette CSPE en retour. Donc, quand vous avez des panneaux photovoltaïques sur votre toit, si vous appelez EDF, ils sont grosso modo obligés de l'acheter à un tarif fixé par l'État, qui est assez élevé. Mais EDF est remboursé là-dessus. Si vous appelez Enercoop, notre tarif va être beaucoup plus bas. Donc forcément, c'est moins intéressant pour n'importe quel installateur, développeur, etc. Donc les éoliennes que vous voyez, les grandes, bénéficient de tarifs d'achat favorables, mais seulement pratiqués par EDF. Donc n'importe quelle entreprise ou particulier qui veut faire ça, quand ils appellent Enercoop et qu'ils connaissent nos tarifs d'achat, ils disent « Ah bah non !»« Non, je ne peux pas aller chez vous, c'est pas rentable. »
Donc imaginons...
C'est le frein.
Imaginons un autre cas de figure, une collectivité qui a une belle usine d'incinération, qui produit de l'électricité lorsqu'elle brûle des déchets, et qui veut avoir une démarche citoyenne, environnementale, s'adresse à Enercoop pour un tarif de rachat, même s'il est plus bas malgré tout. Ça rentre dans vos cordes?
Ah bah oui. Pourvu que, on va dire, éthiquement, le moyen de production, il est, même s'il est renouvelable, il est accepté par les habitants et qu'il ne pollue pas d'une manière ou d'une autre, ou moins en tout cas. On a quand même des critères aussi au niveau renouvelable, hein. C'est pas parce que c'est renouvelable que c'est bien. Il y a quand même aussi des choses à respecter, mais sur le principe, bien sûr. Le problème après, c'est le prix et la rentabilité de la chose. Alors une commune a besoin de moins de rentabilité en général qu'une entreprise qui a une vision beaucoup plus court-termiste, mais voilà, après il y a cet aspect-là à discuter, ce qui dans les années à venir va tendre à disparaître parce que tout comment dire, toutes les technologies deviennent de plus en plus matures. Donc ça coûte beaucoup moins cher d'investir dans ces installations-là maintenant qu'il y a 10 ans encore. Donc la rentabilité est aussi plus rapide, etc., etc. Donc c'est en train de changer. Mais ça reste encore un peu trop cher et il faut encore des tarifs assez élevés pour que ce soit rentable. Et ces tarifs, seul EDF est habilité à les pratiquer. Donc voilà.
D'accord. Une petite dernière question, en fait, comment les gens ils font pour vous connaître en fait, comment vous arrivez à développer votre
client d'Enercom
ou sociétaire?
Alors, pour le devenir, c'est d'une simplicité extraordinaire, puisqu'il suffit d'aller sur le site internet, en 10 minutes vous êtes devenu client si vous le voulez.
Mais
si
comment on le connaît, ce site internet?
Alors, comment on le connaît? Et ben, ça c'est particulièrement via des réseaux qui sont proches de nos pratiques, nos modes de pensée.
Actuellement là, si on n'est pas dans une association déjà, on ne peut pas connaître votre existence.
C'est beaucoup plus compliqué. Ah non, clairement. C'est sûr. Parce que c'était un choix aussi d'Enercop de ne pas faire de publicité parce que ça coûte très cher. Et donc on n'est pas passé par la télé ou les médias classiques ou faire de la pub avec des grands panneaux partout. On ne l'a pas fait. Alors ceci dit, il y a des choses qui vont peut-être changer dans les années à venir parce qu'on va passer à une vitesse supérieure pour essayer d'attirer beaucoup plus de monde chez nous. Mais pour les attirer, il faut en entendre parler. Donc il y a peut-être des choses qui vont changer dans les mois et années à venir. Mais aujourd'hui, pour en entendre parler, il est clair que c'est plus facile d'être dans des réseaux déjà, genre un app, tiers de lien, etc. pour avoir
un air de vie sur Principe Actif.
Exactement, tout à fait.
Et donc, voilà. C'était monsieur
Laurent Ouvrard.
D'Enercom,
tout à fait. Voilà.
Merci. Bah, merci beaucoup pour votre accueil.
Voilà.
Merci
à vous. Retour au 21 février. On repasse en avant. Un reportage assez long, un très beau montage de Kevin. On a rencontré plein de gens intéressants. Il reste encore de la matière.
Et voilà, on va se retrouver la semaine prochaine dans deux semaines. Je suis un petit peu trop pressé.
Pour la suite
de nos aventures.
Voilà.
Avec de multiples talents, des herboristes
des dames qui nous ont fait goûter des trucs bizarres.
Sur des sucres, des
herboristes dans le légal. Hein.
Voilà, oui, tout à fait. Voilà. Allez, bonne soirée à
tous. Allez, ciao, ciao tout le monde.
À dans deux semaines.
À bientôt.
C'était un air de vie, une émission proposée par le trio JFK sur Principe Actif.